Ça fait du bien d'aller se donner la main aux frères et aux sœurs. Alléluia, Dieu est bon. Merci pour les chants. Ce matin, j'ai bien aimé le premier chant quand on chante « Hosanna ». Et « Hosanna », ça veut dire « délivre-nous ». Hein? Et quand Jésus est rentré à Jérusalem, le jour des rameaux, hein, le peuple acclamait « Hosanna, délivre-nous ». Apporte-nous salut, tu es notre délivrance. Quel Dieu que nous avons, alléluia. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui corrige aussi, un Dieu qui reprend, mais ça reste un Père, alléluia. Donc, le Père qui aime la famille, puis on le sait, dans la famille, mais on est différent. Dis à ton frère, je suis différent de toi, mais je t'aime pareil, alléluia. C'est l'Église, c'est la vie de l'Église, alléluia. Amen. Donc, ce matin, qu'est-ce qui brûlait vraiment dans mon esprit? On a eu deux semaines assez compliquées. Il est arrivé toutes sortes d'affaires, puis même dans les messages, j'ai bâti trois fois de messages pour arriver un matin, et j'ai bâti trois fois pour le message pour Stéphane, pour la prédication avec Pasteur Stéphane. Donc, une semaine compliquée du Seigneur. Que veux-tu au bout de la ligne? Que veux-tu? Ta boîte! Donc, les prédicateurs, on est à bout! C'est quoi tu veux? Donc, ce matin, j'aimerais parler d'un sujet vraiment, je pense, quoi, d'actualité. Fausse humilité ou véritable humilité. On va se faire parler par la parole de Dieu. Et on va commencer vers Jean, chapitre 4, verset 6. On va commencer avec ce verset. Donc, le titre de ce message ce matin, « Fausse humilité ou véritable humilité ». Jean, chapitre 4, verset 6, nous dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Humiliez-vous, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Seigneur, on veut te remercier pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps de fraternité, ce temps d'amour, Seigneur. Mais Père, aussi à travers ta parole, c'est ta parole, on ne peut pas, Seigneur, la déplacer. Elle est vérité, elle est vie, elle est espoir. Également, elle est celle qui nous reprend, celle qui nous appelle à marcher dans la droiture de ton cœur. Seigneur, on te dit merci. Et Seigneur, que cette parole ce matin vienne nous encourager, vienne nous parler, même nous emporter le changement qu'on a besoin ou qu'on a besoin d'être changé. Père, tu es le Dieu du changement, tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, fais-nous du bien, encourage-nous et fortifie-nous, Seigneur, afin que nous voyons la gloire de ton nom. Amen. Et amen. Donc, ce matin, comme qu'on vient de voir, fausse ou vraie humilité. Vous savez, le cri de Dieu, le cri du cœur de Dieu, c'est de nous entourer entre deux exhortations que je vais parler sur l'humilité. Ésaïe 57, verset 15 nous dit, « Car ainsi parle le Dieu Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Donc, Jacques nous dit, si on s'humilie réellement devant le Seigneur, qu'on le fait, il va nous accorder une grâce excellente. C'est ça qu'il nous dit, une grâce excellente, c'est-à-dire que sa grâce est beaucoup plus forte que la puissance du péché, que de la chair, du monde et de Satan. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la force d'être des vainqueurs dans ces choses-là. Et Dieu nous dit par le prophète Ésaïe également que Dieu habite dans des lieux élevés et dans la sainteté. Donc, Dieu recherche un peuple humble avec qui qu'il veut habiter. Il veut pas juste être de passage, mais il veut avec nous en tout temps. Dites-moi un gros amen. En tout temps. Pas de passage, mais en tout temps. Donc, faut vivre dans la mentalité avec Dieu, dans sa pensée, dans ses directions. Et Dieu a trouvé un homme qui nous parle d'un homme humble avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Nombre, chapitre 12, verset 3. Ah, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Quand nous parlons de l'humilité, donc, on aime dire, c'est le langage que nous avons, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui dit pas un mot, c'est quelqu'un est tellement humble que tu n'as pas un mot à dire, tu es chrétien, tu dois te soumettre à toute chose. Et c'est loin d'être la vérité. J'aimerais emporter ce matin des aspects de c'est quoi en réalité l'humilité. Oui, l'humilité, il faut comprendre que faut être d'accord avec d'être ensemble, de comprendre les autres. Je comprends tout ça, mais la véritable humilité que je veux parler ce matin, c'est pas dans ce sens-là. J'aimerais regarder avec vous trois points de la véritable humilité, qu'est-ce que Dieu nous recherche. Le premier point que je veux parler avec vous ce matin, l'humilité, c'est notre obéissance. Là, Jacques nous dit, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Cela, ça fait un lien entre l'obéissance et l'humilité. Le Seigneur donne toujours ses promesses et ses plans sont toujours pour notre vie. Vous serez d'accord avec ça? Et Jérémie 29, 11, c'est un sujet, un texte qu'on prend souvent. « Je connais les projets que je t'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, ces promesses sont pour vous, sont pour moi, sont pour le peuple de Dieu. Et Dieu forme ces projets en vous pour qu'ils se réalisent également. C'est une image, je dirais, prophétique de notre destinée. Tous aspirent, je crois, si on veut être honnête, à accomplir la volonté de Dieu. Combien sont d'accord avec moi? Je veux accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. C'est des promesses. Dieu les a placées en vous. Et le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera son cœur désir. » Donc, quand Dieu nous donne des directions, notre intelligence détermine un chemin logique pour prendre le chemin. J'aimerais également dire, souvent Dieu nous conduit dans des directions qui n'est pas toujours les nôtres, qui nous semblent souvent l'opposé de notre logique. Vous savez, la véritable humilité reconnaît la sagesse de Dieu, reconnaît les directions de Dieu comme supérieures à nos pensées. C'est la sagesse, c'est l'obéissance à Dieu qui nous conduit dans son plan, en dépit de notre manque de compréhension. J'aime le texte de Isaïe 55, verset 8. Et souvent, je vis des situations et Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Dieu ne pense pas contre nous. Il ne pense pas de la même façon que moi. Et peut-être que ses voix sont les contraires des tiennes pour t'emmener au plan que lui veut t'emmener. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va prendre ta volonté pour faire la sienne. Dieu connaît notre destinée. Il va l'amener à terme, votre destinée. Pas nécessairement à la façon que tu voudrais qu'il t'amène à ta destinée. Vous savez, Abraham a attendu des années et des années pour avoir le fils de la postérité. Et cette promesse va se réaliser. Abraham, 100 ans, Sarah, 90 ans. C'est tout un miracle, vous allez me dire. Hein? C'est tout un exploit même. Et Abraham a vu son fils grandir. Donc, vu la réalisation de ses promesses, était content de son fils. Puis on pense, selon l'histoire, que le jeune Isaac avait peut-être 13 ans quand c'est arrivé cette histoire-là. Et que Isaac était celui qui va prendre la postérité, qui continue. C'est le plan, c'est la réalisation du plan de Dieu. Mais Dieu va mettre Abraham vraiment au pied du mur. On va prendre ça comme ça, là. Il demande à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice. Vous connaissez l'histoire. Et c'est un sacrifice qui est demandant. Je ne sais pas si on sera capable de faire ces choses-là. Et Dieu dit, donne-moi ton fils. Écoutez bien, sur le côté humain, ça doit être impensable. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Tu t'imagines, tu te fais demander ces choses-là. Tu peux imaginer la lutte intérieure d'Abraham face à ces choses-là. Donc, de sacrifier la promesse qui était donnée pour le peuple, c'était de la part de Dieu un ordre terrible, douloureux dans le cœur. Et ça n'avait aucun sens par rapport à la promesse de la postérité que Dieu voulait donner. Pourtant, Abraham s'est humilié à choisir l'obéissance alors qu'il ne comprenait absolument rien. Pourtant, Dieu, il dit, donne-moi, qu'est-ce qui est le plus cher? Et surtout, alléluia, et dans la tête d'Abraham, on va dire, ouais, mais Seigneur, qui va remplacer C'est le fils de la postérité. Il doit penser que Dieu peut le ressusciter, je ne sais pas. Mais c'est un geste d'obéissance. Ici, ça me semble l'opposé de la sagesse, de notre compréhension et de notre intelligence. Combien de fois le Seigneur, peut-être dans vos vies, dans nos vies, qu'on a fait des choses, on aura dit « jamais j'aurais fait ces choses-là ». Jamais, jamais au grand sens que moi je peux faire ces choses-là. Moi, personne ne me voyait dans le ministère. Personne ne me voyait là, mais je suis encore là. Dieu a pris des détours dans ma vie, puis il a fait des méchants détours. Mais je suis encore là. Je ne pense pas comme Dieu pense. J'essaie de chercher le cœur de Dieu. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas tout le temps. Et vous? En tout cas, moi, j'ai vu ça comme ça, là. C'est non seulement un test de foi, mais également jusqu'à où Abraham aime-t-il son Dieu, jusqu'à où qu'il est prêt à aller dans la confiance de Dieu. Et quand le moment pathétique est arrivé, Genèse 22, 12, l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Il ne fait rien. Dans la crainte, dans la désobéissance, dans l'obéissance, nous voyons, nous verrons et nous voyons la réalisation des promesses en dehors de notre compréhension. Wow! Gros point à méditer. Deuxièmement, notre vie doit dépendre complètement de la dépendance envers Dieu, la véritable humilité. L'humilité peut être définie comme une dépendance complète et absolue avec le Seigneur. Nous voyons également la même chose avec Josué et Caleb, qui sont partis avec les 12 espions explorer le pays de Canaan. Et une fois revenus du pays de Canaan, maintenant les 12 espions sont là, sont partis 40 jours, et 10 espions maintenant m'ont donné un compte rendu à Moïse, et 10 espions donnent un rapport très négatif. Nombre 13, verset 27 et le verset 28. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, sont grandes, et nous avons vu des enfants d'Anak. Les 10 espions reconnaissent que c'est vraiment un bon pays, ils l'ont vu le pays. Mais il y a des obstacles pour prendre position qui nous semblent impossibles. Le langage, oui, c'est un beau pays, mais on est toujours là dans les « mais hein, », dans les « livres mais on aurait dû, mais on aurait dû écouter, mais on a, mais ». Pourtant, ces gens-là ont vu le pays, mais il y a des grandes villes, c'est un grand peuple, on ne pense pas de pouvoir conquérir ce pays-là. Et le verset 30-31, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait comme Moïse et qui dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient avec eux allèrent y dire, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est fort, plus fort que nous. » Ça a tellement brassé, ils ont peur, ils ont la crainte, ils ont l'angoisse, l'impossibilité pour eux de prendre ce pays parce qu'ils sont petits face aux géants. Et verset 33, « Nous avons vu les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. » Ils pensent ici, écoutez bien, puis je vais rentrer dans le vif, ils pensent ici comme des hommes charnels. Leur foi est au neutre. Ils disent, c'est impossible de vivre les promesses. Et c'est impossible de vivre les promesses de Dieu sans la foi et sans l'humilité. Ils pensent qu'ils se pensent sages. Ils paraissent bien dans leur discours. L'orgueil prend le dessus de la chair. Ils résistent à leurs promesses. C'est de la fausse humilité. Et suite à cela, Nombre 14, 9, « Seulement ne soyez point rebelles, Josué et Caleb, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. » Ne les craignez point. Donc ici, Josué, Caleb, il n'y a pas de place à l'intimidation. C'est clair entre les deux parties. Donc, il n'y a pas de place à la fausse humilité. Et c'était un des grands problèmes que Jésus a rencontré avec les pharisiens. Allô? Qui donnait une fausse image qui était Dieu en réalité. C'était leur affaire, leur conviction, leur direction. Ça marche comme ça. Mais Dieu a un plan. Alléluia. Et Dieu ne marche pas dans la fausse humilité avec nous. Allô? Dieu veut le changement du cœur. Quand Dieu donne une bénédiction ou quand Dieu donne une direction, il faut s'humilier et se lever et prendre position. Je n'ai pas entendu un gros amen ici. Alléluia. Il faut être la différence. Pourtant, le plan de Dieu, c'est de donner le pays de la promesse. Josué et Caleb disent, ne doutez pas de ce que Dieu peut faire. Seulement, ne soyez point rebelles à Dieu. Rebelle, ça parle de désobéissance. Donc, il dit, soyez pas désobéissants à ce que Dieu a pour nous. Nous, on s'est humiliés, on a cru la promesse que Dieu a donnée. Moïse nous a partagé la vision et dans notre humilité devant Dieu, on se soumet à sa volonté. Nous voulons notre pays. Combien veulent leur pays ce matin? Combien veulent leur promesse? Combien veulent prospérer? Combien veulent aller plus loin avec Dieu? Combien? Mais pour ça, ça prend de l'audace, ça prend du caractère, ça prend la foi. C'est-à-dire, on ne se laissera pas intimider dans l'adversité. C'est le langage de Josué et de Caleb. Car Dieu nous a donné le pays. Il est déjà à eux. Alléluia. Dieu donne le pays de Canaan. Verset 9. « Ne craignez point les gens de ce pays, car nous servirons de pâturage. » Ne craignez point. Vous savez, la raison principale, souvent, la volonté de Dieu, son plan, son amour, c'est ses promesses. Il marche avec nous. Et on n'a pas à craindre, enfant de Dieu, d'être fier de s'identifier avec Dieu dans l'humilité. L'ennemi est déjà vaincu. J'ai pas à combattre ça avec ses... Il est déjà vaincu. Toi, crois que Dieu va faire la différence dans ta vie. Crois-le! Tu peux pas toujours dire « Seigneur, papa, Seigneur, puis si, puis c'est pas... » Ça, c'est le langage du désert. C'est pas le langage de la vie. Le langage de la vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je suis plus que vainqueur dans toute chose. Je suis celui sur qui je suis. Je suis celui que tu sers, qui vit en toi, qui fait la différence. Nombre 14, 10 et 11. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Ça va pas bien. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me briser? Dieu est à bout. Dieu est à bout avec son peuple. Lis-le, là. Jusqu'à quand ce peuple-là va-t-il me briser? Jusqu'à quand ils vont croire en... C'est quoi leur problème en réalité? Alléluia. Le peuple de Dieu, alléluia, parle de lapider les serviteurs de l'Éternel. Dieu a vu qu'est-ce qui se passe. Dieu intervient. Ça passe pas pour Dieu, la rébellion. Allô? C'est quoi ton problème? C'est ça que Dieu nous dit un matin. Ça passe pas. Dieu a un héritage à nous donner. Et Dieu désire leur donner la bénédiction, vivre dans ses promesses. Et l'humilité, je dirais également, c'est faire un pas de foi dans vos promesses. Combien croient ça? L'humilité, c'est faire un pas de foi dans vos promesses. Soit de prendre possession de ce que Dieu a pour vous. Ne mettez pas Dieu en doute dans votre vie. Soyez humble devant le Seigneur. Verset 11, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand, je le répète, ce peuple va-t-il me mépriser? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de vous, au milieu de lui? Voyez, le peuple de Dieu, jusqu'à quand ils vont-ils me mépriser? Mépriser, si vous faites la recherche, ça veut dire repousser, ça veut dire rejeter. Avec mépris. Encore plus fort comme mot. Donc, Dieu dit jusqu'à temps qu'ils vont me rejeter, qu'ils vont me mépriser. Le peuple de Dieu a vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir en deux. Ils ont vu la plus grande armée de l'époque se faire anéantir. Ils ont été délivrés de l'esclavage du péché. Ce peuple encore doute de l'amour, de la grâce de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable. Pourquoi? Ils n'ont pas la foi. Et voyez-vous, la foi, ça va avec l'obéissance. Et l'obéissance va avec l'humilité. Tu ne peux pas détasser ces choses-là. Ça marche, un, deux, trois, ensemble. Donc Dieu dit, « Perds pas courage, je te le donne, le pays. » Le cœur de l'homme, souvent, est dur. On oublie vite ce que Dieu fait pour nous. On oublie ce que Dieu fait pour nous. Souvent, souvenez-vous de cette parole, je l'avais partagée il y a quelques temps avec vous, puis on va la relire encore ce matin. Deutéronome 8, versets 2 et 6, jusqu'au verset 6. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue. » Donc, de tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'a châtié comme un homme châtie son enfant. C'est fort comme parole, qu'est-ce que Dieu dit. Souviens-toi. Ces versets, c'est une grande réalité. Je ferais dire un matin, souviens-toi les victoires que Dieu t'a accordées. Souviens-toi où tu sors. Moi, je sors d'un monde de drogue, d'alcoolisme, de musicien de club. C'était ma vie. J'étais restaurateur. Puis, t'en veux-tu de la coke? N'en veux-tu du... C'était ma vie. Je me souviens de ce jour que le Seigneur m'a sauvé. C'est mon témoignage. Je me souviens. Te souviens-tu qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Te souviens-tu qu'est-ce que Dieu a fait avec ta famille? Te souviens-tu les bénédictions que Dieu t'a données? Te souviens-tu comment que Dieu a pourvu à tes besoins? Te souviens-tu par le chemin que tu as passé? Te souviens-tu qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Dans sa fidélité, il t'a soutenu. Il t'a délivré de l'Égypte. Il t'a apporté la guérison morale, physique, spirituelle. Il t'a apporté la délivrance. Il t'a apporté des victoires. Et puis, il va le faire encore. Chacun de nous a un témoignage à donner. Si tout cela s'est réalisé, c'est parce qu'un jour, vous vous êtes humilié devant Dieu. Et Dieu recherche encore la même humilité. Alléluia! Le Seigneur vous cherche et que c'est à vous et à moi ce matin à saisir les promesses que Dieu a pour moi. Alléluia! Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose de grand. Dieu aime le cœur humble et contrit devant lui. C'est des réponses. Quand on vient devant Dieu, on dit, Seigneur, on a besoin de toi. On s'humilie devant le Seigneur. Ne doutez pas que Dieu peut répondre encore à la prière. Souvent, les gens disent, ouais, mais j'ai prié, ça fonctionne. Continue! Ça. Dieu, il y a une pile de requêtes qui l'attend. Tu n'étais peut-être pas le premier, mais il va répondre. Alléluia! Dieu aime son enfant. Dieu ne t'a pas oublié. Fais-moi confiance. C'est ça qu'il dit. Purifions nos cœurs en attendant. C'est Dieu qui élève l'homme et l'homme qui s'élève. Reste humble devant le serviteur. Il va combattre pour toi. Il va t'élever quand ce sera le temps. Il va te dire avance comme la nuée. Vous vous souvenez, la nuée de jour, la nuée de feu de nuit, et le peuple se levait quand que Dieu se levait. Et quand Dieu te dit, c'est le temps de te lever, mais lève-toi. C'est lui qui guide ta vie. J'aime le passage. Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Pour avoir une réponse, donc, c'est-à-dire que tu t'es humilié devant le Seigneur. Et que quand la réponse maintenant vient, une fois que tu as la réponse, lève-toi, obéis, ce n'est pas de la fausse humilité, mais c'est de l'obéissance. Voyez-vous le parallèle des deux, de la fausse et de la vraie humilité? Puis je vais aller plus loin dans quelques instants. Dans notre contexte, c'est négatif. On peut comprendre le cœur de Dieu. Il est déçu. Le manque de foi de son peuple. Mais ce peuple est orgueilleux. Ce peuple se lève contre Dieu. La fausse humilité. Souvent, on va parler avec des gens, tu sens que c'est pas sincère. Il y a une fausse humilité à quelque part. Ça passe pas. Il y, Il y a quoi qui accroche? Ça ne passe pas. Dieu veut des... On va le dire en mots simples. Dieu veut qu'on soit vrai. 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 C'est quoi le mot vrai? Sincère. Sincère. Problème souvent dans nos églises ou dans les églises, peu importe l'église, c'est les masques. Ça va bien de dire « Seigneur, te bénisse ». C'est très facile, mais en arrière, c'est d'autres choses. Allô? Ça fait 35 ans que je fais de la vie chrétienne. Je peux vous en parler de ces choses-là. Tu sais, ou que les gens, « Seigneur, te bénisse ». Non, regarde-moi, « Seigneur, me bénisse, te bénisse ». Seigneur, te bénisse. Bon, ouais. Regarde-moi quand tu me dis, tu veux me bénir, regarde-moi. As-tu des choses à cacher? Allô? La fausse humilité, être bien vu des gens, mais en arrière, ce n'est pas vrai. Donc, ces gens-là donnent de bons conseils. C'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai qu'il y a des obstacles, mais ils sont aussi sur le joug du diable, dans le mensonge également. Dieu se sent repoussé, rejeté. Ils sont rebelles à Dieu. Comme Dieu peut te dire, moi, je les comprends pas. C'est dur à comprendre le cœur de l'homme, hein, vous savez. Moi, j'arriverai jamais à comprendre ces choses-là, là, honnêtement. Là. J'ai beau vouloir comprendre, mais des fois, ça me dépasse. Et vous? Moi, je ne comprends pas, lui-là. Là. Il est compliqué, son affaire. Là. Comprends pas. Tu sais, tu parles avec des gens, comprends pas. Moi, c'est mon langage. Des fois, je demande, comprends-tu, toi? Ah, non, moi, je ne comprends pas. Mais je dis, OK, je ne suis pas tout seul, là, tu sais. Comprends pas. On est compliqués, les humains. On se complique les choses. Comment on aime ça, trébucher sur des choses? Comment on aime ça, se donner la vie dure? Oh, qu'on aime ça! Alléluia! Mais l'amour de Dieu, c'est plus que ça. Donc, Dieu ne veut pas que tu souffres inutilement. Donc, Dieu veut te donner une bénédiction, il veut te donner des héritages. Puis c'est genre, oh non, Seigneur, on n'en veut pas, on ne te fait pas confiance aux yeux du peuple. Il se te donne une belle apparence. Mais au fond du cœur, c'est quoi la vraie game? Ils ont peur, ils se cachent une fausse humilité. Et la fausse humilité, ça cache des choses. Tu dis, lui, il cache des affaires. Il y a des choses à me cacher. C'est pas vrai. C'est ça, la fausse humilité. Tu discernes ces affaires-là. Allô? C'est la vérité ce matin. Église, si on va avancer, je parle ici, je parle ailleurs, je parle le même langage quand je vais ailleurs. La véritable onction de Dieu vient dans l'amour, et l'amour, c'est la vérité, et la vérité, il n'y a pas de masque. Et Josué et Caleb, pour le peuple, ils se sentent inconscients, ils les voient présomptueux, arrogants. Josué a confiance en Dieu, Caleb a confiance en Dieu, c'est leur humilité devant le Seigneur. Ces gens veulent la promesse, ils veulent le pays de la bénédiction, ça c'est de la vraie humilité, Dieu les donne. Poids, balance, contrebalance. Voilà notre foi qui doit s'élever face aux craintes, aux peurs et aux doutes. Dieu désire donner à l'homme une main d'association. Quand on parle de main d'association, je vais prendre l'exemple avec mon ami Stéphane, parce que Stéphane, souvent je dis, « Oh Stéphane, je te donne la main d'association. » Pourquoi? Parce que je crois en lui. Comprenez-vous? Quand on donne une main d'association, parce qu'on croit à quelqu'un. Tu ne donnes pas ta main d'association à quelqu'un si tu n'as pas confiance en quelqu'un. Tu donnes ta main d'association parce que tu as confiance à quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu veut travailler dans la main d'association pour que je lui fasse confiance. Comprenez-vous? Donc, Dieu veut que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Le cœur de Josué et de Caleb, il est beau, il dépend de Dieu, et non de leur capacité, mais de la capacité en Dieu de rentrer dans leur pays de Canaan. Ils savent que c'est la volonté de Dieu. Ils peuvent paraître présomptueux, orgueilleux, pendant que les autres espions sont réalistes, qu'ils ont perçu quelque chose de réaliste, qui donne un beau langage, des ensages, mais c'est pas le cas. C'est de la fausse humilité. Je reviens. Et si vous faites l'étude, Josué, c'est lui qui va remplacer Moïse, et Caleb est le seul aussi qui va rentrer dans le pays de la promesse. Nombre 14, 30. Vous n'entrerez pas point dans le pays que je vais jurer de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué, fils de Nun. Nombre 14, 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de, resta seul parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Deux. Dieu a séparé les hommes et les orgueilleux. Bon, réfléchissez là. Très fort comme ligne de pensée. L'humilité, c'est une dépendance complète envers la grâce de Dieu. L'apôtre Paul également a été un homme d'extrême humilité. Il l'a dit à son sujet, 2 Corinthiens 3, verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit, « Ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dans la vie de l'apôtre Paul, il y a une progression. Paul, plus qu'il prenait de l'âge, plus qu'il était dépendant de la grâce de Dieu. Et moins qu'il dépendait de ses propres forces, de ses propres capacités, de ses propres choses à lui, plus que Paul se vidait de lui-même, qu'il mettait à mort sa vie, et plus qu'il devenait audacieux et puissant pour glorifier Jésus-Christ. Paul nous dit que ma capacité vient de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que tous ont des talents ici. Est-ce que c'est vrai? Vous avez sûrement des talents. Mais arrêtez d'être humble un peu, là. Donc, vous avez reçu quelque chose. Alors, arrêtez de vous abaisser quand ce n'est pas le temps de s'abaisser, là. Vous avez reçu des talents. Dites-le avec moi. J'ai reçu quelque chose. Bon, ce n'est pas se péter les bretelles, ça. C'est d'être humble et de dire, « Seigneur m'a donné quelque chose. » Est-ce que c'est vrai? Non, mais sa grâce, ça va s'accomplir dans vos faiblesses. En travaillant, qu'est-ce que Dieu vous donne? Les deux forces vont s'unir. L'humilité, c'est l'obéissance à sa volonté. Et se lever dans la foi, c'est se faire sa volonté. Dieu travaille avec l'homme. Dieu ne travaille pas tout seul, il travaille avec qui? Il y a un piano, là. Il ne joue pas tout seul, le piano. Dieu t'utilise pour prendre le piano. Dieu m'utilise pour la prédication. Dieu va utiliser. Fais partie du plan de Dieu. Et j'ai rien à me péter les bretelles, c'est son plan. Mais il a besoin de vous quand même, parce qu'il travaille avec toi. Donc, il n'y a rien pour être orgueilleux là. La gloire revient à Dieu. Troisièmement, le troisième aspect de l'humilité, l'opinion que nous avons de nous-mêmes. La perception que nous avons de nous-mêmes. Comment qu'on se voit? On va réfléchir encore plus. Comment qu'on se voit après notre conversion? L'apôtre Paul s'est humilié vraiment en abondance. Tout ce qu'il a accompli avant sa conversion et comment qu'il se voit après sa conversion. Ce que Paul cite, Philippiens 3, 8, Paul nous dit, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par laquelle j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Donc, pour Paul, son désir, c'est de rassembler à Jésus-Christ. Vous serez d'accord avec ça? Donc, de connaître l'amour, de connaître la révélation, de connaître le cœur de Dieu, pour marcher dans la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit, vous savez, instruisait Paul. Pour Paul, il n'y avait rien d'incomparable à l'amour de Dieu. Sa vieille vie, c'était rien à comparer de sa nouvelle vie. Le pardon de ses péchés, la justification, la sanctification, la marche de l'esprit, la révélation de Jésus-Christ, la révélation du royaume de Dieu, la révélation de la vérité, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, signe, miracle, prodige, baptême du Saint-Esprit, conversion, chasser des démons. Paul, écoute, extraordinaire. Tout le monde voudrait avoir un apôtre comme Paul. Parce que pas tout le monde serait capable de vivre avec Paul non plus. Vous comprenez? C'est bien beau avoir l'homme à son image, mais ils sont rares, tu sais. Et que dire que Paul nous parle de la destinée éternelle dans notre vie également. Donc, c'est pourquoi je cite mon ancienne vie est morte, je porte mes regards sur le ressuscité. Donc, il m'offre une nouvelle vie, quelque chose de différent. Je regarde ma vieille vie comme de la boue. Le mot boue, c'est excrément. Ça ne vaut pas grand-chose, hein? On arrête des pêtes, vous savez. Hein? Donc, c'est un pharisien, c'est un homme intellectuel, c'est un homme puissant en parole, qui connaît la lettre, un homme esprit au pied de Gamaliel, persécuteur des chrétiens, maintenant comparé à sa nouvelle vie, à sa nouvelle naissance. Attends, c'est rien, la nouvelle naissance a tout pris la place. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre, mes amis, de vivre dans l'onction de la résurrection. Votre vieille vie, là, est morte. Puis je vais en parler dans deux semaines, là. Je suis mort. On dirait qu'on vit plus qu'encore sans mort. La mort n'est pas vraiment dans notre vie à bien des places, là. Mais je dois aller là. C'est là que je dois aller. Le seul désir de Paul, si donc vous êtes ressuscité avec Christ et cherchez Colossiens 3, verset 2, 1 et 2. Si vous êtes ressuscité avec cherchez les choses en haut, Christ était celle à la droite de affectionnez-vous aux choses en haut. Qu'est-ce que Paul va nous dire? Paul va prendre un mot si. Je me suis arrêté sur si. Si. Si, si, si. Si, si je suis ressuscité avec Christ, le si ici c'est un appel au conditionnel. Un conseil très fort. Si tu es ressuscité avec Christ, tu peux traduire comme ceci, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, je vous conseille fortement de tourner le dos à votre ancienne façon de vivre. Si tu es ressuscité, renonce à ton ancienne vie. C'est encore plus fort dans l'écriture du texte hébreu. Vous savez, commencez à vivre une nouvelle vie en Christ. Vivez dans la vie du ressuscité. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous devons chercher les choses d'en haut. Nous sommes encore sur terre pour découvrir et de cultiver les valeurs célestes. Sans en dire long, qu'est-ce que Paul pensait de lui? Paul était humble devant Dieu. Ce n'était pas de la fausse humilité. Comprenez-vous encore où j'en viens? Paul donne crédit à son sauveur. Il obéit à l'appel de Dieu. Il sait marcher, il a marché dans l'obéissance. Il a donné gloire et honneur à Jésus-Christ. Dieu travaille, je le répète, avec l'homme et la femme, avec celui qui s'humilie, puis ensuite qui se lève pour la cause de son royaume. La véritable humilité, c'est pas prendre la place de personne, c'est pas tasser tout le monde, c'est pas dire « c'est mon ministère ». Bon, vous en racontez une histoire de ministère, ça vient. On était amené dans une assemblée qu'on avait, et puis les gens, en tout cas un couple, qui nous a donné pas facile non plus. Puis on a voulu introduire d'autres musiciens. Puis ces gens-là nous disaient, c'est mon ministère. Puis il n'y aura pas d'autres personnes qui vont venir faire du ministère avec nous autres. C'est mon ministère. Quel ministère as-tu, là? Allô? L'orgueil. Prends pas la place. Fais juste faire ta job. Fais juste faire ce que Dieu te demande. Allô? On est appelé le corps à marcher ensemble. Alléluia. Toutes tes capacités viennent de Dieu. Paul nous dit bien, ce que j'ai accompli, ce n'est pas ma force, mais celui qui vit en moi me donne la force de faire qu'est-ce que je dois faire. Je vous pose la question ce matin. Réflexion, j'aime bien la réflexion. Qu'en est-il de notre réalisation avec notre nouvelle naissance? Est-ce que ma chair cherche encore les choses de ce monde? Ou cherchez-vous plus la révélation de Jésus-Christ, de sa parole, de rechercher son royaume, de rechercher son amour, de rechercher la puissante onction du Saint-Esprit, de mourir soi-même et de porter sa croix, de porter plus de fruits spirituels, ou cherchons-nous encore les plaisirs de ce monde? Une vie, je vais vous le dire honnêtement, une vie peu transformée ne peut porter que des peu de fruits. Allô? Une vie peu transformée ne portera pas, va porter peu de fruits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas développé. Qu'est-ce qui fait que l'arbre ne se développe pas? Ben, je vous pose la question. Vous seul avez les réponses. Alléluia. Beaucoup de frères, de sœurs vivent encore dans la façon de l'Égypte et qui n'ont pas sorti leur vie de l'Égypte, un pied dedans, un pied dehors et un pied dans le compromis. C'est l'histoire de l'Église. Vivez, étudiez l'Église de Corinthe. Si tu veux avoir des problèmes d'Église, vis Corinthe. Corinthe, c'est ma lettre préférée pour tous les problèmes de l'Église. Jean-Baptiste a cité, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Jean-Baptiste dit en réalité que ma chair doit mourir et que lui grandisse. Philippiens 3:13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » C'est la pensée de Paul à sa nouvelle naissance. La pensée de Paul est simple en réalité. Tout ce que Dieu a fait à travers ma vie depuis ma conversion tend vers ce qui est vers l'avant. Est-ce que c'est notre cas? Je vous pose la question. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que ça tend-tu un petit peu plus de Jésus dans ta vie? Ou juste un petit peu? Non, c'est... Ou t'en veux un petit peu plus? Donne-moi ça. C'est quoi qu'on veut comme chrétien? Après des années de conversion, l'apôtre Paul a été envoyé comme apôtre des nations. Et Paul a implanté des églises dans l'Asie, dans l'Europe. Et c'est ce qui est intéressant, je veux juste vous terminer avec quelques points. Quand l'apôtre Paul a écrit à la lettre de Corinthe, Paul est le fondateur 56 après Jésus-Christ. Et 10 ans avant sa mort, Paul a dit, Paul qui est devenu un serviteur expérimenté pour le Seigneur, Paul va dire, 1 Corinthiens 15, verset 8, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme un avorton. » Paul parle de lui ici. Paul parle des 12 apôtres qui ont marché avec Jésus, comment ils ont été bénéficiés, qui ont marché 3 ans avec Jésus, et que Paul lui-même a eu la révélation sur le chemin de Damas, qu'il n'a pas vu, mais qu'il a entendu Dieu. Et Paul, pour lui, se voit comme le moindre, comme un avorton. Et le mot avorton, c'est un fœtus mort. Paul se voit comme un fœtus mort. Tu t'imagines, Paul parle de lui de cette façon-là, avant sa nouvelle naissance. Paul parle de sa nouvelle naissance. L'apôtre Paul parle de cette façon parce qu'il était le dernier des avortons. 1 Corinthiens 15, 9, et j'avance, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. » Ce que Paul dit, il disait que j'en mérite moins que les autres. J'ai persécuté l'Église, j'étais un adversaire pour l'Église. Et je me sens indigne, mais Dieu m'appelle quand même apôtre. Est-ce que c'est une fausse humilité ici? C'est sa vie qui parle. Paul connaissait son identité. Nous voyons l'humilité des paroles de Paul. Paul aurait pu vraiment péter la coche et dire, « Regarde-moi, je suis le meilleur. » Paul aurait pu dire ça parce qu'il était le meilleur, d'après moi, là, après Jésus. C'était l'homme du Nouveau Testament. Paul aurait pu s'accomplir de sa vie. Paul n'a pas fait usage d'une fausse humilité, d'hypocrisie pour que les gens le connaissent. Son témoignage parlait de lui-même. Voyez-vous, on revient encore avec le témoignage. Sous l'inspiration de Saint-Esprit, Paul n'aura pas été capable de mentir. Le cœur de Paul est droit. Il n'y a pas de fausse humilité, il n'y a pas de cachette. Il ne pouvait pas mentir au Saint-Esprit. C'est pas un discours politique, mais une réalité, une humilité sans feinte. 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Non, moi toutefois, mais la grâce qui agit en moi. Écoutez bien, Paul dit bien, je suis qui je suis. Je suis Serge et je resterai Serge. Je suis pasteur Stéphane, je vais rester pasteur Stéphane. Je suis Alain, je vais rester Alain. Je suis Sylvie, je vais rester Sylvie. On se comprend? On est qui qu'on est. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas un clone de Paul, je ne suis pas un clone de... Je suis moi, j'ai ma personnalité, c'est moi. Paul dit ça. Mais Paul dit également, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'a accompli, c'est par la grâce de Dieu. J'ai investi toutes mes capacités pour le royaume de Dieu. Mais l'amour et la grâce de Dieu m'a donné la capacité de faire avancer son œuvre. Dieu a accompagné Paul dans son ministère. Paul était incapable de se dissocier de ses réalisations, soit qu'il a investi et la grâce de Dieu l'a accompagné. Tu ne peux pas dissocier un avec l'autre. Pourquoi? Paul était homme de cœur. Il dirigeait son cœur vers Dieu et son fruit a été réel. Paul lui dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. » Wow! Paul est convaincu de tout ce qu'il a fait. Tout le produit de sa vie, ça venait du Seigneur. Le vouloir de le faire, le vouloir de le servir venait de Dieu. Et que toutes les réalisations qu'il a faites, c'était le fruit de la capacité de Dieu avec lui. Alléluia! Une vraie humilité est capable de reconnaître ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, le vouloir, et ça prend place dans nos vies. Alléluia! Et c'est comme ça que ça doit marcher. Moi, j'ai fait des choses dans ma vie, j'ai voyagé plus souvent qu'à mon tour. C'était pas par ma force, c'était un désir qui était là, qui était présent, qui me poussait. Puis Manon, elle me disait des fois, t'es fatiguant. J'ai dit, Manon, ça brûle. Elle dit, vas-y. Avec quoi qui brûlait à l'intérieur? Quand c'est Dieu qui met quelque chose dans vos vies, il va te donner le pouvoir et le faire de réaliser son plan. 7 ans plus tard, Paul écrit à l'Église d'Éphèse, 63. Paul nous dit, soit 3 ans ou 4 ans avant sa mort, durant les 7 années qui sont écoulées, Paul dit de lui-même, Philippiens 3, 8, je vous donne beaucoup de versets parce que j'avance, « À moi, je suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » 7 années avant, il se dit le moindre des apôtres. Maintenant, il se décrit le moindre des saints. Il se voit de cette façon. Puis encore, il y a la progression avec Paul. 1 Timothée 1:5, « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. » Paul se décrit comme le moindre des apôtres, comme le moindre des saints. Il se voit comme maintenant comme le moindre des pécheurs. Êtes-vous rendu là, vous? Posez-vous la question. Est-ce qu'on est rendu là? En tout cas, moi, j'ai du chemin à faire, je vais être honnête avec vous. Là. Je ne suis pas tout à fait mort encore. J'ai failli mourir, mais je suis encore là. On a des choses à apprendre à travers le message ce matin. C'est quoi l'humilité? C'est quoi la véritable humilité? La véritable ou la fausse humilité? Paul avait une image de lui. Plus qu'il grandissait dans le Seigneur, plus son humilité grandissait devant Dieu. Alléluia! Paul poursuivait son sauveur. Vous savez, poursuivre Dieu est une chose, je vais conclure, mais se faire poursuivre par Dieu est autre chose. Le Saint-Esprit pouvait compter sur Paul, sur l'obéissance de Paul. Paul était homme et Paul était soumis à l'Esprit de Dieu. Paul, son opinion, était centrée sur la résurrection de Christ. La vraie humilité, puis je vais terminer avec ceci, ce n'est pas de rien faire, de se laisser manipuler, de ne pas dire un mot, et ce n'est pas ça l'humilité. La vraie humilité, c'est capable de s'abaisser devant la volonté de Dieu pour faire sa volonté. Et si vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu, on va tourner nos langues 7 fois avant de faire les choses. Allô? Ça vous parle-tu un peu matin? Fausse ou vraie humilité? Je vais terminer avec quelques réflexions qui venaient dans la prière et je vais juste vous les partager. Vous savez, Paul était un homme de conviction. Paul n'a pas été une marionnette en 10 ans, mais elle accomplit la volonté de Dieu. Détesté par certains, aimé par certains. La question que je pose, je vais terminer avec cette réflexion. Quelle opinion avez-vous devant Dieu? Quelle opinion que vous avez devant Dieu, devant le Seigneur? Laissez-nous sonder un peu, là. Quelle opinion que tu as devant le Seigneur? Et la vraie question qu'on doit se poser, quelle opinion que Dieu a de moi? Quelle opinion que Dieu a de moi? Un bon ou un mauvais serviteur, soit un homme ou une femme humble, ou un homme ou une femme de fausse apparence. Il y a de quoi méditer, hein? Moi, c'est ça que je voulais vous partager ce matin, fausse ou vraie humilité. Vraiment, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, et puis je l'ai partagé, puis je le partage. On veut votre bien, hein? Mais on sait qu'on a du travail à faire. Et le vrai travail va commencer quand les masques vont tomber. C'est là les guérisons vont arriver, les délivrances, comme qu'on a chanté ce matin. On veut voir la gloire de Dieu, mais on ne veut pas rester dans des masques. Il faut que la fausse humilité tombe et la vraie humilité grandisse. Si on est capable de faire ces choses-là, je vous garantis, dans quelques années, vous ne reconnaîtrez pas votre Église. Je vous le prophétise.